Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro dominical Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine, mais confinés chez nous comme vous tous et très heureux de vous retrouver. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Comme chaque dimanche aujourd'hui, deux experts formidables, Philippe Orbach, président de la Sommelier Française, et David Cobold, le président, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour cette émission qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour messieurs, bonjour David, bonjour Modéré. Philippe.
Bonjour, David, bonjour Adam, bonjour
David,
à tous.
Il y a une information importante, David Cobold, pour les auditeurs d'une vidéo Sud Radio. Comment se porte votre jardin?
je vois la formation des premières fraises, elles sont encore toutes petites et assez vertes.
Vous êtes dans le Gers, vous êtes toujours dans le Gers.
Oui. Les tomates sont en floraison. Les premières pousses d'haricots et de petits pois percent. Et puis les échalotes sont en pleine forme. Donc, tout va bien.
Bon, alors, on va faire de la concurrence à notre ami Vincent Ferniaud.
Que des bonnes nouvelles.
Également. Ouais. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio, donc, a le plaisir d'accueillir Frédéric Reynaud, le président de Pfaff Wine Estates. Bonjour Frédéric.
Bonjour, directeur simplement.
Directeur. Bon, on va en parler à Angéline.
Bonjour à tous.
Alors, Frédéric, on va parler avec vous de l'Alsace, une terre qui a malheureusement été particulièrement touchée par le Covid-19. Est-ce que les choses s'améliorent? Parce qu'on entend parfois encore des bruits d'hélicoptères autour de vous.
Alors oui, c'est encore assez confiné. Moi qui habite dans la banlieue de Mulhouse, on a les couvre-feux toujours de 21h à 6h le matin, avec toutes les lumières éteintes. Il y a encore beaucoup d'activités sur les hôpitaux, donc on est vraiment encore sous un système de confinement que vous n'êtes pas autant dans le sud. Mais petit à petit, on organise la reprise d'activité en espérant qu'on commence un déconfinement assez rapidement, puisque il va bien falloir quand même qu'on se remette à travailler et à revendre nos produits.
Et à revendre quoi. Alors, Frédéric, un mot sur votre parcours. Vous avez toujours travaillé dans le vin, vous avez un joli accent qui n'est pas alsacien, même si l'accent alsacien est sympa. Vous êtes plutôt bordelais d'origine, non?
Moi, j'ai l'accent bordelais puisque j'ai passé mon enfance à Bordeaux. J'ai fait mes études d'œnologie à Bordeaux. Et puis, j'ai travaillé un peu en Hongrie. Et je me suis retrouvé en Alsace rapidement. J'ai travaillé d'abord dans la grande distribution pour le groupe Super U et puis ensuite pour le groupe Carrefour. Et puis, j'ai rejoint la production ensuite dans le Gers, pas très loin de chez David, puisque j'ai dirigé la cave des vignerons de la Ténarèze à Vic-Fezensac. Et puis ensuite, j'étais directeur de la filière vin du groupe Vivadour, groupe coopératif. On s'est retrouvé à nouveau avec David une ou deux fois en Vallée du Rhône, puisque j'ai travaillé en Vallée du Rhône aussi. Et puis, je suis retourné
en Alsace.
Pour une femme, toujours, comme d'habitude.
Bien sûr.
Chercher la femme, toujours.
Un mot sur l'historique de Pfaff. Tout débute en 1957.
Oui, en 1957. Il faut savoir que la viticulture alsacienne d'après-guerre va très mal, puisque pendant les années 40-45, les Allemands ont un petit peu saigné les vignobles en essayant de récupérer plus du volume que de la qualité. Il y a un très bon livre qui existe à ce propos qui s'appelle « Le vin et la guerre » qui est très intéressant à lire là-dessus. Et donc, la plupart des viticulteurs ont essayé de trouver des solutions, se sont regroupés. Donc là, en l'occurrence, c'était 6-7 viticulteurs qui ont essayé de créer une cave coopérative à Pfaffenheim en 57, qui ont été ensuite rejoints par des viticulteurs de Geberschwihr, qui est le petit village d'à côté, pour aujourd'hui faire une coopérative qui comprend 145 coopérateurs
adhérents
pour un volume à peu près qui varie suivant les années. Vous savez que la production en Alsace est très variable ces dernières années à cause des aléas climatiques.
Entre 3 et 4 millions peut-être.
Ouais, en hectolitres, ça fait entre 22 500 et 27 000 hectolitres.
Bon, vous pouvez parler en bouteille parce qu'une vidéo sur radio parle à des consommateurs.
Hein, exactement, tout à fait.
C'est plus compliqué. Donc, on va dire racontez-nous, Frédéric. Vous avez la chance de travailler sur 325 hectares, on va le dire, et avec des cépages magiques.
Alors, effectivement, on a des cépages, on a 7 cépages, dont les plus connus sont, on va dire, le Riesling et le Gewürztraminer, au départ, puis le Pinot Gris, le Pinot Noir, qui est un cépage qui était un petit peu rebelle en Alsace parce que le climat n'était pas toujours adapté à ce cépage et qu'avec le réchauffement climatique aujourd'hui, on a l'avantage de voir des pinots noirs avec meilleure maturité. Et donc, on envisage même que dans 50 ans, peut-être que l'Alsace fera les pinots noirs de Bourgogne et que tout remontera d'un cran au niveau des vignobles.
Ouais, il y aura du grenache, il y aura du grenache en Bourgogne. Voilà un petit commentaire justement sur vous qui êtes amateur de tous les vins, hein, bien sûr avec modération, mais notamment du cépage pinot noir. Le pinot noir d'Alsace, il vous inspire quoi?
C'est pour moi, David? Ça
oui, David Cobol, c'est vous, David Cobol.
Pardon. Moi, ça m'inspire beaucoup, d'autant plus que j'ai visité l'Alsace avec un thématique de visite axé sur le pinot noir récemment, et j'étais très impressionné. Et ce que, pas beaucoup de vins, et ce que les vignerons m'ont enseigné, c'est que les sources, la matière végétale avait changé d'origine. Au lieu d'être à l'origine champenoise, où là, le but du pinot noir, c'est de faire un vin mousseux, donc le rendement peut être bien supérieur. Les clones sont différentes en Champagne qu'en Bourgogne, et depuis peu, on importe des clones de la Bourgogne, avec aussi beaucoup de vignerons qui ont été étudiés à Dijon ou à Bonn. Et du coup, la qualité s'est transformée. Rajoutons un petit grain de sel qui a le petit réchauffement climatique et vous avez des zones de maturité. Aussi, les vignerons ont su s'adapter et baisser le rendement, faire un travail très soigné, très, très suivi dans les vignes. Et du coup, honnêtement, les meilleurs pinots d'Alsace, pour moi, valent des très, très bons bourgognes.
Philippe Forbach, selon vous, le potentiel de garde d'un pinot noir d'Alsace sur une belle année, vous l'estimez à combien, Philippe?
Alors, ça dépend bien entendu des styles de vin produits, mais sur les grands terroirs et dans les gens qui effectivement travaillent le pinot en Alsace, un peu comme les bourguignons, une dizaine d'années sans aucun problème. Et ça donne à la fois des vins plus complexes, des vins très charmeurs dans leur expression aromatique. Ça garde du fruit, ce qui est super intéressant, mais en même temps, on développe une gamme dans les épices, le côté un peu oriental tel qu'on peut l'avoir dans les Côtes de Nuit. Enfin, ça donne vraiment, et puis ça donne des accords mésévins super intéressants, parce que quand on parlait des pinot noirs d'Alsace avant, on disait c'est des petits vins entre guillemets un peu léger, de la couleur faisait penser à un clairé plus qu'à un rouge finalement. Et c'était intéressant de les boire un peu frais sur des poissons.
Et ça a changé tout ça.
Différentes choses. Aujourd'hui, on est vraiment sur un rapport sur un certain nombre, en tout cas, pour aller vraiment sur des très jolis plats, des viandes, des gibiers, des plats un peu plus élaborés. Et franchement, avec, à mon avis, un très bon rapport qualité-prix encore.
Un très bon rapport. Frédéric Reynaud, expliquez-nous donc au total, vous avez différentes marques et domaines, c'est ça?
On a la cave coopérative qui produit des vins principalement sous la marque Pfaff avec d'autres marques ombrelles comme la Griffe du Diable qui sont des hauts de gamme par exemple. Et puis la cave est propriétaire également du château de Riquewihr qui est Riquewihr étant un village très renommé en Alsace, très touristique, hein, plus de 3 millions de touristes chaque année. Sur lequel on a 32 hectares, enfin 27 hectares exactement, et on a également un petit vignoble qui est au sud de Colmar, qui s'appelle Clos Château d'Isambourg, qui est quelque chose d'unique, puisque c'est un clos entièrement fermé de murs de plus de 3 mètres de haut, en terrasse.
3 mètres de haut. Ça, c'est un vrai clos, contrairement à d'autres régions où il y a des faux clos.
Tout à fait, c'est un clos unique, tout en terrasse entièrement fermé par des murs, avec en haut de la colline un palace, un hôtel 5 étoiles, qui nous appartient pas fort heureusement, c'est trop compliqué à gérer, mais c'est un endroit extraordinaire. Tout à fait.
Alors côté distribution, Frédéric, racontez-nous, donc en temps normal, vous exportez quasiment 50% de production. Aujourd'hui, il y a des choses qui bougent, pas tellement, et d'autres qui fonctionnent très bien, notamment au Québec.
Oui, alors étonnamment, avec le problème du Covid-19, bien entendu, le marché français souffre énormément. Les derniers chiffres qu'on a vus, notamment sur la grande distribution, sont assez catastrophiques pour les AOC. L'Alsace est à moins 17% sur les deux dernières semaines de mars.
Moins 17, c'est énorme.
Hein, mais c'est énorme. Par contre, alors étonnamment, il y a un pays au monde dont la consommation a explosé. Quand je dis bien la consommation, on a vraiment les ventes réelles aux consommateurs, puisque c'est un monopole d'État. Et la consommation d'Alsace a fait un bond à plus 21% sur…
Et ce pays est…
C'est le Québec, tout simplement. Le Québec au Canada.
La province du Québec. Le pays, c'est le Canada.
Exactement, oui, tout à fait. La province du Québec. sachant que l'ensemble des vins a fait un bond à plus de 30%. Donc, il faut croire que les Québécois ont peut-être trouvé un moyen de lutter contre, en tout cas, pas contre le virus, mais contre le confinement et consomment contre énormément de vins français, quoi. Justement, des AOC. Ouais.
Et alors, aujourd'hui, vous travaillez avec, vous collaborez avec 145 coopérateurs. C'est comment le management des viticulteurs, coopérateurs, quelque part, des actionnaires?
Alors, la gouvernance d'une coopérative est un petit peu complexe parce qu'elle est assez différente d'une société de type privé. Il y a un conseil d'administration qui est élu par l'ensemble des viticulteurs. Chez nous, c'est 15 viticulteurs qui sont administrateurs, qui élisent eux-mêmes un président. Et donc, toute la relation entre la coopérative et les viticulteurs se fait via le président du conseil d'administration et ses administrateurs. Le directeur et les cadres dirigeants, eux, sont des salariés et eux sont en charge de la partie, on va dire, plus opérationnelle de la coopérative. Même si, bien entendu, on travaille également sur l'accompagnement. On est en train de passer en HVE, donc haute valeur environnementale niveau 3 sur l'ensemble de la cave, et ça demande automatiquement énormément de relations avec chaque viticulteur puisque chaque exploitation doit être… certifié.
Frédéric, c'est un gros chantier, ça. C'est impressionnant de faire ça.
David Chopin, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi?
Je pense que du bien. Je pense que la HVE3, c'est essentiel aujourd'hui et mener ça à l'échelle d'une coopérative importante comme la vôtre, chapeau, parce que j'imagine le boulot.
Chapeau.
C'est très bien.
Bon, merci Frédéric. On vous souhaite le meilleur, vous à titre personnel, bien évidemment, également pour les vins d'Alsace en général et votre coopérative. Dans un instant, Invino Sud Radio va s'intéresser aux appellations Cahors et Ventoux. Et avec juste avant, donc un clin d'œil de David Cobode, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, au Sauternes et au Muguet. Réponse dans 5 secondes.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Invino Sud Radio, le retour. Je rappelle à tous les amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end, qui peuvent communiquer les coordonnées de leurs vignerons chouchous favoris sur la page Facebook d'Invino. Et ensuite, on aura le plaisir de les accueillir à l'antenne dans l'une de nos prochaines émissions. Voilà, David Cobold. Alors, avant de parler de Cahors, c'est une très belle région aussi, place à un duo étonnant, le Sauternes et le Muguet. Vous êtes sûr, c'est ça, David?
Pas exactement, mais il y a un lien, parce qu'il s'agit du 1er mai. Le muguet, c'est la fleur du 1er mai, mais il faut surtout éviter de le manger ou de le boire, puisque c'est un poison.
Donc,
à la place de ça, j'ai un collègue associé et ami, Olivier Bourneuf, qui est Toulousain de son état, personne n'est parfait. Lui, il a déclenché…
On entend toujours David.
Sur les réseaux sociaux. Et lui, il a organisé une série de conférences fort intéressantes avec des producteurs, d'une part, et pas que des petits, puisque vous allez avoir Château Guiraud, Reine Vigneault, Gillette, Coutet et la Forêt Perraguet, et leurs responsables ou propriétaires. Ensuite, Jean-Jacques Dubourdieu de Doisy-Den, Château La Tour Blanche. Et puis, après, vous allez parler il va parler de Sauternes à table. Et in fine, avec des barman Sauternes en cocktail. Ça paraît étonnant, mais
c'est très bien, ça.
C'est très bien et ça permet d'ouvrir un peu le champ des consommateurs de Sauternes. Parce que Sauternes, comme et beaucoup de
David
vins…
David Cobold, pour en savoir plus, il y a un site internet pour prendre renseignement.
Oui. Il faut contacter Olivier Bourneuf. D'ailleurs, le plus simple, c'est d'aller sur le blog que je co-écris, qui s'appelle « Les 5 du vin », l'article de samedi, hier, « Les 5 du vin », c'est chez WordPress, c'est un blog où il y a des articles chaque jour. L'article d'hier présente l'ensemble de l'opération avec les contacts pour participer à ces opérations. Allez-y, c'est formidable.
Bravo. Philippe Forbach, il faut soutenir Sauternes. Hein. C'est vrai que c'est une appellation qui souffre et qui pourtant, elle aussi, recèle des pépites, Philippe.
Oui, c'est une appellation qui souffre parce que c'est vrai que les vins avec du sucrisier duel sont moins tendance aujourd'hui. Mais c'est une appellation qui, pourtant, depuis les années 2000, a travaillé, notamment grâce à Denis Dubourdieu, sur plus de fraîcheur, plus de fruité, beaucoup plus d'équilibre, moins de sucrosité. Et du coup, ce sont des vins qu'il faudrait vraiment réapprendre à retrouver. J'ai regoûté récemment le millésime 2014 sur un certain nombre de jolies propriétés, par exemple.
C'est superbe.
On a un fruité remarquable, on a un pouvoir de séduction absolu et on a surtout un bel équilibre à en oublier presque un petit peu le sucre. Et il faut sortir aussi du sauterne foie gras. Il y a plein d'autres possibilités, mais je pense que David va l'évoquer.
David Cobold.
Mais le sauterne avec plein d'autres plats, c'est génial aussi.
David Cobold, en tout cas, bravo à Olivier Bourneuf, encore une belle initiative. Ouais, nous serons présents avec Dino Sud Radio. Le 1er mai, c'est la journée mondiale du sauterne, David. On reste sur des vins qui sont un petit peu moins sucrés, d'une très, très belle région, où les Anglais poussent beaucoup, Cahors.
Oui, alors ça n'a pas la même couleur non plus, hein, parce que c'est plutôt noir ou très, très foncé. Rouge violacé, violette, noir. D'ailleurs, on appelait ça longtemps le vin noir. Cahors, c'est pas très loin de là où je me trouve, à peu près 80-100 kilomètres. Cahors se trouve à une heure et quart au nord de Toulouse et à deux heures et quart à l'est de Bordeaux.
À combien d'heures de Mulhouse pour faire un clin d'œil à Frédéric?
Oh là là, bon, il doit y avoir 900 à peu près. Hein. C'est pas le même climat, tout à fait. Alors, on est sur à la base, c'était un plateau qu'on appelle la Causse, plateau calcaire, puisque toute sa partie, le bassin sud-ouest de la France, était sous l'océan autrefois. Donc, il y a énormément de dépôts calcaires qui ont été plus ou moins rangés selon l'endroit. Et Cahors, l'aire d'appellation a été sculptée par le Lot qui descend, qui ravinait pendant des millénaires et des très très longtemps, ce plateau calcaire en creusant des ravins et en faisant des méandres selon la résistance du roc calcaire. Et du coup, on a des terrasses qui montent depuis la vallée où c'est très alluvionnaire et étant de plus en plus pauvre quand on monte vers la Causse qui n'a pas été rongée. Donc on a des situations à la fois d'orientation, de nature du sol et de pente qui sont assez différentes. Alors ça fait une seule appellation, vin rouge uniquement, 4500 hectares plantés, or qu'il y a plus de 20 000 disponibles, donc tout n'est pas planté. Ouais. L'appellation date de 71. Je crois bien que le décret a été signé par Monsieur Pompidou, qui est originaire de pas très loin, de Figeac, près de Figeac. Et cette appellation a fait vraiment une révolution sur les 20-30 dernières années. Parce que lorsque je vivais dans cette région dans les années 70, les vins de Cahors étaient très durs, très tanniques, presque imbuvables.
Très rustiques. Est-ce qu'il y a un cépage majeur?
Alors, il y a un cépage absolument majeur et emblématique. Ça doit légalement constituer au moins 70% des vins de Cahors. Dans beaucoup de cas, c'est 100%. Il s'appelle le Malbec. Autrefois, localement, il s'appelait l'Auxerrois. Alors, l'Auxerrois, ça vient pas d'Auxerre. D'ailleurs, ça ne mûrirait même pas à Auxerre avec le réchauffement climatique. Mais ça vient plutôt de Haute-Serre, qui est un plateau juste au nord de la ville de Cahors. D'ailleurs, c'est le nom aussi d'un très beau domaine, Haute-Serre. Et c'est devenu Malbec par un monsieur Malbec, qui était un propriétaire bordelais et au XVIIIe siècle a importé ce cépage, où c'était très planté à Bordeaux, jusqu'à l'arrivée des Maladives, Mildiouv et Oïdium au XIXe, parce que le Malbec déteste l'humidité.
Du coup, David Cobold, c'est un cépage qui offre un potentiel de garde, David, ou c'est plutôt les vins voire jeunes en général?
Non. Il y a tous les styles à Cahors, parce que la plupart des producteurs produisent une gamme. Donc, on a des vins fruités jeunes, gourmand, comme celui-ci que j'ai ici. Il s'appelle le Clos, et c'est un Clos Trotteligotte, très joli nom. Trotteligotte, ça veut dire perdré en occitan. Vous voyez un perdreau comme il court sur la route, il trottine.
Oui,
tac, 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 tac.
Donc, le Trotteligotte. Vous faites très bien le perdreau, David.
Je fais bien le perdreau.
Ou la poule faisane, au choix.
Oui, ça fait ça aussi, ou le canard, si vous voulez. alors, donc, on a une gamme de vins qui vend du fruité au plus en plus concentré, avec une gamme de prix D'accord. qui va de 5 euros à 40 euros pour certains qui sont plus chers, même s'il y en a quelques exceptionnels qui sont un peu trop chers au-delà.
Ouais. Alors, Philippe, il y a Torbac,
énormément de jeunes et très bons producteurs.
Philippe Torbac, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme gastronomie avec un Malbec qui a déjà 4-5 ans? Philippe Torbac,
ce qui va particulièrement bien avec les Cahors, c'est l'agneau, et notamment on produit pas mal d'agneaux sur les plateaux d'Écosse. Ça va très bien également avec les truffes, lorsque ça prend un petit peu d'âge. C'est aussi un autre produit local, effectivement, qui s'associe particulièrement bien avec les Cahors.
Bien, quoi. David Cobold, vous avez des jeunes vignerons, c'est des vignerons âgés, anciens?
Des jeunes et des moins. Je pense que le renouveau du vignoble de Cahors doit beaucoup à quelques pionniers donc qu'il faut citer. Je pense en particulier à Château de Cèdre, la famille Vérague, Château Haute-Serre, Les Vigoureux, et puis aussi en arrivant très médiatisé, Monsieur Alain-Dominique Perrin, avec son château La Grésette. Mais aujourd'hui, les vins que j'aime beaucoup, c'est Chambert, Trotte-Ligotte que j'ai cité, Métairie Grande de Terran, Claude Un Jour, La Martine, Claude Auduit, La Reine, Combelle-la-Serre qui fait des vins très originaux avec des superbes étiquettes. Il y a énormément de choix à Cahors. Il faut oublier complètement ce Cahors vieux style, dur, ingrat, sans fruit. Aujourd'hui, les
donc
vins
les clichés,
sont...
on oublie. C'est comme les vins d'Alsace qui donnent mal à la tête, c'est fini.
Exactement, on oublie tout ça.
C'est fini, David.
Goûtez, goûtez, goûtez. Il y a des choses magnifiques et très accessibles.
Merci beaucoup, David Cobol. Vino Sud Radio retrouve donc Philippe Aubrac. Vous aimez le vélo, David ou Frédéric là? Vous aimez pédaler ou pas?
J'aime mieux la moto que le vélo, mais j'aime bien le vélo aussi.
Parce que je ne sais pas si c'est le programme du prochain Tour de France à la rentrée, mais le Mont Ventoux, Philippe Forbach, c'est quand même une étape pour les grands amateurs de pédales, si je puis dire. Hein.
Exactement, le fameux géant de Provence qui culmine à légèrement moins de 2000 mètres d'altitude en plein cœur du Vaucluse et qu'on ne peut pas ne pas voir lorsque l'on descend vers le sud de la France et vers la Méditerranée. Et qui a donné naissance il y a déjà très longtemps à des cultures de vignes déjà à l'époque gallo-romaine, mais depuis 1973 c'est une appellation contrôlée et qui produit à peu près sur 6500 hectares de vignes. C'est quand même un assez grand vignoble, hein, à la fois du rouge, du blanc et du rosé. Alors les amateurs de vélo effectivement adorent, on va dire ça avec des guillemets, hein, parce que c'est quand même une bavante, comme on dit dans le cyclisme, quand on fait de la montagne, parce qu'on peut aussi faire des randonnées pas toujours très faciles dans le Ventoux, il faut être prudent.
Ou à moto, comme David.
Ou en moto, exactement.
J'ai fait les deux, j'ai monté le Ventoux et à moto et en vélo.
Bravo.
Vrai que c'est dur. Hein.
Bravo, il faut être prudent, y compris à la descente, parce que les pentes sont raides de deux côtés. Hein. On n'a pas les descentes, mais c'est important aussi. Il y a d'ailleurs la cave de Baume de Venise, Ronea, qui a sorti effectivement une cuvée qui s'appelle l'Amicale de la Pédale. Et effectivement, pour 7 euros, vous pouvez emporter chez vous ce petit souvenir, ce petit clin d'œil.
C'est sympa.
Alors, 70% des vins produits dans l'appellation Ventoux, donc en plein cœur du Vaucluse, pas très loin de Baume de Venise, je viens de le citer, mais également de Rastaud, n'est pas très loin de la ville de Carpentras. 70% sont des vins rouges, élaborés à partir des cépages traditionnels du coin, c'est-à-dire le Cinsault, le Grenache, le Mourvèdre, le Syrah, mais également avec du Carignan, et il y a quelques vieux Carignans dans le Ventoux qui valent vraiment la peine. Ce sont des cépages qui sont également utilisés pour élaborer les rosés, on trouve un petit peu de rosé également. Et puis, il y a le blanc produit dans la région à partir de Marsade, à partir de Picpoul, à partir de Roussanne, de Vermentino, ou encore un petit peu de Villonnier, qui donne, ma foi, des vins qui sont assez originaux, plutôt aromatiques. C'est vrai que notamment l'altitude, quand on monte un peu sur les pentes du Mont Ventoux, permet d'avoir une certaine fraîcheur. Et comme toujours, dans le sud, c'est super intéressant parce que les nuits plus fraîches permettent de préserver l'acidité et de donner des vins, effectivement, qui ont un peu plus.
Pour les rouges et les blancs, Philippe Forbach, ce sont des vins de garde potentiellement. David a expliqué que c'était le cas pour les Cahors tout à l'heure. C'est pareil pour les Ventoux?
Oui, pour les rouges, bien entendu, même si certaines cuvées ont plutôt à vocation d'être goûtées relativement jeunes. Mais la plupart du temps, effectivement, ce sont des vins qui ont beaucoup de matière, un fruité noir remarquable, des notes un peu poivrées, épicées, qui sont super intéressantes également. Et ça donne des vins qui ont la possibilité de se garder 5 ans, bien entendu, sans aucun problème, et jusqu'à 10 ans, la plupart du temps, sans aucun souci également. Les blancs sont plutôt à consommer, je les préfère un petit peu jeunes. C'est vrai dans les 2 ans qui suivent leur récolte, c'est vraiment intéressant. Après, si on est amateur de ces notes un peu de miel, ce côté un peu cire d'abeille, etc., qu'on peut avoir sur des vins blancs évolués, ça peut être aussi intéressant, mais ce n'est pas la même vocation. Les blancs jeunes, comme les rosés d'ailleurs, plutôt l'apéritif, le casse-croûte, le barbecue, tout ce qu'on a envie finalement de faire, quand on est notamment dans ce coin, ou si on évoque ce coin. Mais dès qu'on a un peu plus d'âge, on rentre un peu plus dans un univers qu'on peut considérer un peu plus comme gastronomique, et avec un blanc, avec un peu d'évolution, par exemple, un veau. En ce moment, on a envie de mettre un petit veau au four avec quelques petits légumes.
Là, il faut aller chez Frédéric. Frédéric prépare en Alsace, là, à côté de Mulhouse, son veau pour tout à l'heure. David Sebon, vous avez un coup de cœur dans l'appellation Ventoux? Vous avez un vigneron chouchou avant de connaître les bonnes adresses de Philippe Forbach?
Alors, je n'ai pas assez de souvenirs de vignerons en particulier, mais je sais que la cave coopérative, je me souviens très bien de ces cuvées d'altitude, où ils mentionnent l'altitude avec une série de cuvées de haute altitude en mentionnant le nombre de mètres carrés, de mètres au-dessus de l'océan, de la mer. Vraiment très joli. Et pour les rosés, je trouve que cet effet de l'altitude est très intéressant. Pour un rosé du sud, dont je suis en général moyennement fanatique, pour parler poliment.
Ceux-là, ils ont des vraies couleurs. Ils ont des vraies couleurs.
Là, quand on a de l'altitude, on a de la fraîcheur. Et ça, c'est un grand plus pour les rosés.
Philippe. Alors, il y a une cave qui s'appelle Terra Ventoux, d'ailleurs, qui produit effectivement toute une gamme de vins avec une partie de travail en biodynamie, donc avec des approches de culture qui sont pas inintéressantes à souligner. Ils ont notamment une cuvée qui s'appelle Terre de Truffe, parce que c'est aussi comme un petit clin d'œil avec le cas qu'on a évoqué avec David il y a quelques minutes. Merci. Mais c'est vrai que dans le Vaucluse, tout comme d'ailleurs dans le Var et dans la Drôme, et notamment la partie sud de la Drôme, tout ça est pas loin, il y a beaucoup de truffes et ils font une cuvée Terre de Truffe. Le 2017, par exemple, pour donner une idée, est en vente aujourd'hui sur leur site internet, parce qu'on peut se le faire livrer en se faire du confinement, c'est important, et ça coûte 7 € la bouteille, donc effectivement c'est quand même super accessible. Le domaine de Fondrèche est également un de mes
coups de cœur. Excellent, je suis d'accord Philippe, ça j'ai oublié son nom, mais c'est top, toujours très très bon.
40 hectares de vignes travaillés en bio également et en biodynamie. Ils font des vins remarquables, notamment une cuvée d'assemblage Grenache Syrah avec une petite pointe de Mourvèdre qui est nécessairement certes classique, mais qui donne un jus, comme on dit.
Un prix raisonnable
extraordinaire.
Aussi.
Philippe, un prix accessible, un peu plus cher que celui de la cave coopérative, mais un peu plus raisonnable.
Et puis un petit peu plus coup de raisonnable, cœur, quoi. Le dernier,
terminer,
Philippe, oui.
Mon cher Alain, un clin d'œil à un de nos amis journalistes, Patrick Chen, qui s'est installé avec son épouse pour créer une propriété qui s'appelle le domaine d'Ambrun.
On l'embrasse, Patrick. Merci
et là,
beaucoup.
Franchement, ça vaut pas la peine de s'y intéresser.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. On l'embrasse, Patrick. Merci, David Cobol et Frédéric Reynaud. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site. On se retrouve samedi prochain à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner, modération, Eric Morillo. Et surtout, n'oubliez jamais de soutenir tous les vignerons français.
Et d'ailleurs. Sud Radio, Invino.